Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du cinéma. Ce mois-ci, nous allons nous rendre au Costa Rica, en Colombie, en Suède, en Suisse, en Allemagne, aux USA, en France, en Israël, en Grèce, aux Pays-Bas et en Belgique, en Irlande et en Italie, et enfin en Ukraine. C'était un extrait de la BO de Carrie de Brian De Palma, et si j'ai choisi d'ouvrir l'émission avec la musique de ce film, c'est parce que celui dont je vais maintenant parler m'y fait fortement penser. Clara Sola est le premier long métrage de Nathalie Alvarez-Messen, jeune réalisatrice suédo-costaricaine qui a déjà plusieurs courts métrages à son actif. Tournée au Costa Rica, cette coproduction entre le Costa Rica, la Suède, la Belgique, l'Allemagne et les États-Unis raconte l'histoire de Clara, une femme de 40 ans refermée sur elle-même et qui souffre d'une malformation dorsale. Seulement sa mère, femme très pieuse, refuse de la faire opérer, car Clara possède un don de guérisseuse et, par superstition, elle souhaite la garder intacte, comme Dieu l'a créée. Seulement Clara souhaite pouvoir se libérer du joug de sa mère et des conventions sociales et religieuses qui l'empêchent de s'épanouir en tant que femme. Clara Sola est une excellente surprise ainsi que l'un des meilleurs films de l'année, pour le moment. Nathalie Alvarez-Messen dresse avec pudeur et sensibilité un beau portrait de femme seule, d'une incomprise, mais aussi d'une société rurale encore ancrée dans les traditions. Sa mise en scène ne fait nullement preuve d'un quelconque angélisme, mais met bien en évidence les frustrations et les jalousies que peut ressentir son personnage principal. Sans être misérabiliste, la tonalité est à une certaine mélancolie, Clara étant sans arrêt empêchée dans ses projets d'émancipation. Clara Sola critique aussi une société du paraître et de l'exclusion, de la convoitise, Clara pensant ne pas avoir d'autre choix que celui de se conformer aux autres. La cinéaste fait le choix du cinémascope, d'une esthétique plutôt naturaliste, en accord avec le lien particulier qu'entretient le personnage principal avec la nature, les insectes et les animaux en général. La réalisatrice utilise le format large pour encore plus oppresser son personnage, l'isoler au milieu de cette nature luxuriante qui est pourtant son seul refuge et au sein de laquelle elle trouve un semblant de liberté. Même si le film porte un regard critique sur l'intégrisme religieux, il n'est pas exempt d'un certain mysticisme, comme cette relation entre Clara et la nature, là où elle entre en communion pour mieux en embrasser l'esprit. D'esprit, il en est également question dans le film que je vais aborder maintenant, et donc je quitte le Costa Rica pour aller à Marseille, où vit Roland Gori, psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille. Avec Stéphane Chédry, il impulse en décembre 2008 la création du mouvement Appel des Appels. Cet appel qui a reçu en quelques semaines plus de 20 000 signatures et en compte actuellement 80 000, inviter les professionnels du soin, de la justice, de l'enseignement ou de la culture à se rassembler, échanger pour réagir et s'opposer aux logiques de normalisation et d'évaluation dans ces domaines. L'appel dénonce un phénomène idéologique de convergence de méthodes qui vise à harasser l'humain au profit des logiques comptables et marchandes. Le film dont il est question maintenant, Roland Gori, Une époque sans esprit, ne parle pas d'autre chose. Le réalisateur Xavier Gaillan est allé à la rencontre de Roland Gori, chez lui à Marseille, pour l'entretenir de cette société de la performance et du chiffre, où le profit est roi. Les interventions du psychanalyste et écrivain sont entrecoupées de plans sur Marseille, du port où il va acheter son poisson, de lieux symboliques qui illustrent son propos, des immeubles et des échangeurs routiers, des salles de spectacle vides. La mise en scène peut paraître austère, avec ses plans moyens et gros sur les différentes personnes interviewées, pourtant elle s'avère des plus pertinentes, car elle entre en contradiction avec ce que dénonce Roland Gori, une société où tout va vite, qui ne laisse plus de place à la rêverie, à la pensée, à la poésie, à l'art, à l'humain, bref, à tout ce qui fait de nous des êtres de chair et de sang animés d'émotions diverses. En privilégiant des plans longs, des intermèdes contemplatifs, le rythme s'accorde au contenu de la pensée du psychanalyste qui est de savoir écouter, prendre son temps, faire attention à l'autre. Roland Gori, Une époque sans esprit, dresse le portrait d'un homme en toute simplicité qui sait faire preuve d'humour pour dénoncer le capitalisme, la politique d'Emmanuel Macron, l'expertise à tout prix. La mise en scène de Xavier Gaillan a beau faire dans la sobriété, les propos de Roland Gori se font aussi tranchants que profonds. Sa parole apparaît essentielle à l'heure où les écrans, l'actualité et le tout image se substituent à la réflexion. Clara Sola et Roland Gori, Une époque sans esprit, sortent en salle le 1er juin. Le deuxième documentaire chroniqué dans cette émission nous emmène cette fois en Israël. Mizraïm de Michel Boganim sort le 8 juin et raconte le sort réservé aux Juifs venus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Les Israéliens les appellent Mizraïm. Dès leur arrivée sur la Terre promise, ils sont victimes d'un système discriminatoire qui fait d'eux des citoyens de seconde zone. Dans les années 70, un mouvement de révolte s'inspirant des Black Panthers aux États-Unis émerge pour défendre leurs droits. Confronté au deuil de son père, ancien membre de ce mouvement, Michelle Boganim part à la rencontre de plusieurs générations de Mizraïm. Elle va alors de ville en ville à la rencontre de personnalités différentes, mais qui ont toutes vécu des discriminations. D'Israël à la banlieue parisienne, elle filme ce parcours sous la forme d'un road movie en cinémascope, à l'image soignée pour rendre compte de blessures ou de destins brisés. Je passe rapidement sur ce qui, à mon sens, sont les deux défauts du film. Le choix du road movie se montre pertinent pour évoquer le voyage et la migration, mais les personnages alors présentés comme ça à la suite font un peu un effet catalogue. Par conséquent, le film manque un peu d'émotion, peine à susciter une réelle empathie pour ces personnes qui apparaissent et disparaissent sitôt que la réalisatrice quitte la ville dont il était question. L'autre idée de mise en scène de Michelle Boganim est de filmer les interviewés dans la rue, souvent en mouvement et non pas forcément en face à face avec une caméra posée. Ainsi, elle accentue le sentiment qu'ont les personnages d'être dans un exil perpétuel, de n'avoir toujours pas trouvé leur place dans la société israélienne. Cette idée de mouvement donne un certain souffle au documentaire qui acquiert aussi des airs de drame historique, comme le film d'Otto Preminger, Exodus. Michelle Boganim arrive à lier la petite et la grande histoire. Elle ancre ses personnages dans les différents décors qu'elle filme, du désert aux banlieues sordides des différentes villes israéliennes. À travers ces différentes histoires d'exil, de révolte, elle évoque aussi sa propre quête. Elle invoque le souvenir de son père qui s'est battu pour asseoir sa place dans la société israélienne. En terminant son film sur une tombe, avec nom et date gravés dans les marbres, elle signifie ainsi la nécessité du souvenir, de ne pas oublier l'histoire et ses racines. Toujours dans le documentaire, mais moins intéressant, est le film de la réalisatrice ukrainienne Irina Tsilik, The Earth is Blue as an Orange. C'est une coproduction entre l'Ukraine et la Lituanie qui suit le parcours d'Anna et de ses enfants qui vivent dans une zone de conflit en Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle fait de leur maison un plateau de tournage secret, un terrain d'aventure cinématographique surréaliste pour survivre à la folie et à la violence quotidienne. La réalisatrice a voulu faire un film sur le pouvoir de l'art comme ayant un pouvoir de guérison. Elle filme la famille en train de se filmer, de s'interviewer, de donner leurs impressions sur la guerre, de réaliser des plans sur des soldats, de filmer sur le terrain. Elle montre aussi le parcours de la jeune fille qui suit des études de cinéma et qui effectue des allers et retours. On devine que cette famille habite dans le Donbass sans qu'on ne sache jamais où nous sommes et ses voyages incessants lassent un peu. Le film finit par s'étirer en longueur comme si la réalisatrice cherchait quoi filmer, quoi monter, quoi dire. Finalement, le pouvoir guérisseur de l'art avec cette mise en abîme effleurée du film dans le film, la mise en scène froide, distante, sans éclat particulier, s'avère plate, dénuée de souffle. Avec ce style un peu poseur, trop écrit, qui manque de spontanéité, il en devient difficile d'avoir de l'empathie pour les personnages. Cela manque de vie, de rugosité. The Earth is Blue as an Orange fait partie de ces films qui, une fois de plus, comptent sur leur sujet, qui prend le pas sur la forme et Irina Tsilik oublie de faire du cinéma. Mizraïm et The Earth is Blue as an Orange sortent dans les salles le 8 juin. Le 15 juin, il est toujours question de migration avec Demain, je traverse de Sepide Farsi, film qui a été présenté en 2019. Au Festival international du film d'Amiens. Cette coproduction entre la France, la Grèce, le Luxembourg et les Pays-Bas raconte le parcours de Maria, policière grecque, mère célibataire et fille unique. Elle jongle avec ses problèmes d'argent, sa fille adolescente, sa vieille mère et la crise grecque qui fait qu'elle perd son poste à Athènes et doit accepter un poste sur l'île de Lesbos, aux confins de la mer Égée. Youssef, un jeune Syrien qui fuit la guerre pour ne pas être obligé de tuer, arrive à Lesbos et veut aller de l'avant en Europe. Youssef passe par Athènes où Maria est obligée de revenir pour chercher sa fille qui a disparu. Leurs destins se croisent un bref moment dans une Grèce qui semble être une zone de paix, mais qui en réalité ne l'est pas. Celui qui semble être le plus libre des deux l'est peut-être le moins. Il y a quelques mois, j'avais parlé de L'homme qui a vendu sa peau de Kauter Ben Hania, finalement diffusé sur Canal+, au lieu de sortir en salle, et j'avais été très agacé par le propos naïf, pour ne pas dire stupide, du film, et sa vision romantique de la migration. Il en est de même ici, la réalisatrice offre une vision romantique de la migration et du retour au pays, pour finalement aller combattre l'oppresseur. Ce point de vue est digne d'un film américain qui privilégierait une mise en scène spectaculaire et emphatique de son personnage principal. Entre-temps, Sepide Farsi ne raconte pas grand-chose dans une mise en scène prétentieuse. Sa narration se disperse, n'avance pas, certainement infatué de son sujet labellisé grave ou sérieux. Même si c'est la mode de faire des films qui se contentent de leur sujet et qui font illusion auprès de certains, il faut quand même proposer un point de vue, un véritable traitement tant sur le plan du scénario que de la mise en scène. Le cinéma ou un film ne peut se résumer qu'à une seule note d'intention. Demain, Je traverse sort dans les salles le 15 juin. Le 22 juin annonce une bonne surprise avec L'Équipier de Kieron J. Walsh, coproduction entre l'Irlande, le Luxembourg et la Belgique qui se déroule en 1998 au cours du Tour de France, dont une partie s'est située en Irlande. Dominique Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du maillot jaune, est lâché par l'équipe auquel il a consacré toute sa vie. Alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, une erreur élimine un autre coéquipier et Dom doit se remettre en selle. Si, pour raconter le cheminement de Dominique Chabol, le scénario de L'Équipier ne brille pas par son originalité, en proposant des étapes plus ou moins convenues, comme la rencontre amoureuse avec une jeune femme, l'amitié qui l'unit à un entraîneur, Kieron J. Walsh arrive à proposer un traitement efficace qui transcende son histoire, même si pour cela, il traite moins certains films narratifs comme les différentes difficultés familiales auxquelles doit faire face le personnage. Dominique Chabol est surtout un sportif vieillissant qui est toujours resté dans l'ombre, qui n'a jamais osé aller ailleurs qu'à cette place qui lui a été assignée. Pour mettre cela en évidence, le réalisateur opte pour une mise en scène sophistiquée au découpage cut et dynamique. Ainsi, pour souligner le fait que son personnage est un rouage parmi d'autres dans la société, il multiplie les plans courts sur la mécanique du vélo. Ce surdécoupage assimile alors Dominique Chabol à une machine qui exécute. Son parcours existentiel permet aussi de montrer le revers du monde du cyclisme, les méthodes de dopage, les moyens d'y échapper, mais surtout les effets que peuvent avoir le dopage sur le corps humain, avec des séquences particulièrement impressionnantes. Tout comme les séquences de course qui sont filmées avec du souffle, le réalisateur arrivant à rendre la sensation de mouvement. Dans un souci d'authenticité, il passe du cinémascope au format télé pour simuler des images d'actualité de l'époque. Il n'est pas besoin d'être un fou de cyclisme pour apprécier L'Équipier, le propos du film étant ailleurs, dans le besoin de reconnaissance, de trouver sa place dans la société et de savoir s'affirmer.
Take this opportunity to say what an honor it is to host the first Tour de France outside mainland Europe.
Dom is going to be riding in the Tour de France on Saturday.
Are you gonna win?
No, I'm a support rider. I use my energy for the lead rider to win.
Don't you ever want to win yourself?
Of course. But that's a dream.
I hear this is your last tour. Tough shit.
I need to know about next year. My contract.
You're nearly 39 years old. What do you want me to say?
The team needs your focus. Nothing to distract you.
What's the worst that can happen?
If you don't take it, you won't win.
Now give me.
Why risk your life like that?
Everybody does it.
You're not even allowed to win. You're a loser. Professional loser.
Tour starts tomorrow, 10 a.m. After the ground apart, you're out of contract, free to go.
Without a bike, I'm nobody.
Three. Two. One.
De l'Irlande, nous allons nous rendre en Colombie avec un film d'animation au sujet plus grave puisqu'il évoque les FARC. En 2017, le Festival international du film d'Amiens a programmé un film d'animation de Jairo Eduardo Carrillo et Oscar Andrade qui s'inspirait de récits et de dessins d'enfants de 8 à 13 ans qui ont vécu la guerre, en particulier en étant enrôlés comme enfants soldats par les FARC. Le film qui nous intéresse maintenant fait complètement l'impasse sur cet aspect de cette armée rebelle. Jungle Rouge relate les derniers jours du commandant Raul Reis, numéro 2 des FARC, mort dans la jungle le 1er mars 2008. Dans ses ordinateurs se trouvent 10 ans de correspondance de celui qui fut en charge des négociations pour la libération d'une centaine d'otages. Ce film d'animation, réalisé en rotoscopie par Juan José Lozano et Zoltán Horváth, plonge dans l'univers mental de cet homme qui a dirigé les FARC d'une main de fer. Alors même que l'utopie révolutionnaire sombrait peu à peu dans le cauchemar. Le choix esthétique donne un film particulièrement laid, qui donne l'impression d'être devant des pixels pendant 1h30. avec des séquences qui symbolisent les cauchemars du commandant Rolls-Royce tout aussi hideuses, comme si elles avaient été réalisées dans les années 80 pour un jeu Atari 2600. De plus, ce choix de mise en scène entre en contradiction avec le panneau qui assure la véracité des faits montrés dans le métrage en les déréalisant. Certes, cette plongée dans la psyché de Rolls-Royce est décrite comme un cauchemar permanent, peuplé de doutes et de rêves de victoire, mais finalement, tout apparaît factice. Seulement, cette ambition formelle se révèle bien maigre avec une réalisation qui ne brille pas par son ingéniosité ou ses idées de mise en scène. Le tout est filmé assez platement, sans personnalité particulière. Surtout, Jungle Rouge se montre gênant en proposant une vision bien romantique des FARC, avec son lot d'aventures dans la jungle, d'intrigues amoureuses et de trahisons. Les deux réalisateurs font quelques percées critiques en mettant en évidence les contradictions du discours de cette armée rebelle, sans toutefois arriver à trouver un juste équilibre avec ce traitement manichéen des personnages qui sont tous plus archétypaux les uns que les autres. Parmi eux, quelques portraits de femmes volontaires tirent leur épingle du jeu sans toutefois rehausser la piètre qualité du film. L'Équipier et Jungle Rouge sortent dans les salles le 22 juin. Et vous êtes toujours à l'écoute du cinéma et après les exclusivités salles, voici un petit programme consacré à la collaboration entre le cinéaste Brian De Palma et le compositeur Pino Donaggio. Pour Sœur de sang et Obsession, Brian De Palma fait appel à Bernard Herrmann qui fut longtemps le compositeur titré d'Alfred Hitchcock. Ce qui est normal pour un réalisateur qui ne cesse d'affirmer son admiration pour le cinéaste anglais par une mise en scène qui mêle inventivité et référence. Seulement, le compositeur meurt en 1975 et Brian De Palma doit lui trouver un remplaçant. Mis en relation par un ami, son choix se porte donc sur Pino Donaggio, compositeur italien de formation classique et qui est passé par le rock. Sa façon d'utiliser les cordes rappelle beaucoup celle de Bernard Herrmann, comme en atteste ce morceau qui illustre le retour de Carrie chez elle après le massacre au bal. Thank you. 1979 marque la deuxième collaboration de Pino Donaggio avec Brian De Palma pour une œuvre assez mineure, Home Movies. Un long métrage qui met en scène Kirk Douglas, Nancy Allen entre autres, et qui est co-réalisé par des étudiants dans le cadre d'un atelier. Le thème musical composé par Pino Donaggio mêle sa formation classique ainsi que son détour par le rock. Un an après Home Movies, en 1980, Brian De Palma retourne au thriller hitchcockien avec Pulsion. Pino Donaggio compose une musique lancinante et sensuelle pour souligner l'aspect érotique du film. Thank you. Après ce morceau plus délicat, Pino Donaggio signe aussi des extraits qui accusent la filiation avec Bernard Herrmann, avec des cordes plus stridentes pour accentuer les sentiments de menace et de suspense du film. À cette époque, Brian De Palma enchaîne les films et en 1981, il paye son tribut non seulement à Alfred Hitchcock, mais aussi à Michelangelo Antonioni avec Blowout, un thriller dans lequel un jeune ingénieur du son joué par John Travolta est témoin d'un meurtre alors qu'il enregistre des sons d'ambiance dans la nature. Seulement cette fois, la preuve n'est pas une photographie, mais une bande sonore. Blowout est un excellent film qui déconstruit les processus de création, en particulier celui du montage. Thank you. En 1984, Brian De Palma continue d'explorer les processus de création du cinéma, les représentations et les faux-semblants avec Body Double. Après avoir travaillé avec d'autres compositeurs, dont Ennio Morricone ou Danny Elfman, Brian De Palma reprend sa collaboration avec Pino Donaggio en 2012 avec Passion, puis en 2019 avec Domino, deux films mésestimés, voire carrément méprisés, alors qu'ils valent bien mieux que la triste réputation qu'ils traînent. Brian De Palma est un cinéaste engagé qui s'attaque à des sujets sensibles, comme le harcèlement moral en entreprise dans Passion, remake supérieur au film d'Alain Corneau dont il s'inspire, Crime d'amour, ou comme le terrorisme islamiste dans Domino. Je vais conclure cette émission en évoquant une reprise, celle d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma.
Ti sganasci dalle risate! Ah, non ridi!
Le 1er juin, Salò, les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini ressort dans les salles obscures. Le cinéaste italien s'inspire librement du roman du Marquis de Sade, les 120 journées de Sodome, restitue l'intrigue dans la République de Salò durant la Seconde Guerre mondiale et signe une œuvre difficile et sans concession sur le pouvoir. Quatre fascistes signent un pacte dans lequel ils s'autorisent tous les excès. Ils enlèvent 9 jeunes hommes et 9 jeunes filles et les installent dans un château reclus. Durant 120 jours, libérés de toute contrainte sociale, ils vont se livrer aux actes les plus immondes, viols et tortures en tout genre. Salò, les 120 journées de Sodome s'avère un film particulièrement dur, d'autant plus qu'il filme crûment les actes perpétrés par 4 ignobles tortionnaires et leurs complices, des mères maquerelles, tout aussi perverses qu'eux. L'identification est d'autant plus dure que le film ne propose pas de personnages positifs, qu'il n'y a aucune échappatoire. Le film est d'autant plus difficile d'accès que Pier Paolo Pasolini ne juge pas ses personnages. Connu pour son engagement marxiste, il propose une virulente critique de la société italienne de l'époque, mais s'avère toujours autant d'actualité en faisant du sexe un outil de pouvoir et d'asservissement. Au contraire de sa trilogie de la vie, où il célébrait le sexe libre et joyeux, il le décrit ici comme l'ultime expression d'un pouvoir autoritaire. Avec les différents scandales sexuels qui éclatent au sein de l'élite politique, le film acquiert encore aujourd'hui une rare pertinence. Il peut aussi être vu comme une virulente critique d'une société capitaliste et de consommation, où chacun s'enferme dans un individualisme, dans le chacun pour soi. Ainsi, la lâcheté et la collaboration est mise en évidence dans les dernières 20 minutes du film, particulièrement éprouvante, tant psychologiquement que visuellement. Salò, les 120 journées de Sodome fait partie de ces films qui marquent profondément, un chef-d'œuvre à réserver cependant aux adultes avertis et déconseillés aux âmes sensibles. Enfin, un rendez-vous à noter dans vos agendas. Le cinéma Le Pax de Quimplage projettera Si, un film réalisé par Alexandra Kokoreva et produit par l'Orchestre universitaire de Picardie et soutenu par le Fonds Émergence de Picta Novo. Il s'agit d'un court-métrage de 50 minutes programmé sous 3 dates. La première, avec rencontre avec l'équipe, aura lieu le mercredi 15 juin à 18h30. Puis la deuxième, le lundi 20 juin à 19h30 et la dernière, le mardi 21 juin à 14h30. Alors, Si raconte l'histoire de Cecilia qui est en classe de terminale scientifique. À la piscine ou sous la douche, partout où l'eau coule, elle rêve la tête pleine d'interrogations de son imaginaire. Dans la vie réelle, Cecilia est très sensible au son. Son ouïe est tellement développée qu'elle peut prévoir l'arrivée de quelqu'un en entendant ses pas au loin. Et tout d'un coup, le silence. Des longues visites chez les médecins dévoilent la relation de Cecilia avec sa mère. Comment pouvoir cumuler la réalité et l'imaginaire? Où est la limite entre le temps immédiat et le temps de soi? Si, de Alexandra Kokoreva au cinéma Le Pax de Quimplage, le mercredi 15 juin à 18h30, le lundi 20 juin à 19h30 et le mardi 21 juin à 14h30. C'est tout pour ce mois-ci et c'était Thomas Roland et vous étiez à l'écoute du cinéma. Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante, jean-pierre-picard@gmail.com. Je vous souhaite une belle découverte et salut à la prochaine.